Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Autour de moi est fidèle au poste Philippe Christel. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
Et Lucien Valdès.
Bonsoir.
Alors, une émission un peu différente ce mois-ci et surtout dans le déroulement, n'ayant pas préparé grand-chose. Nous allons suivre immédiatement l'actualité européenne, suivi de plusieurs entretiens avec Lucien Valdès, qui nous présentera différentes initiatives éditoriales et littéraires, une sorte de parcours mystique à travers l'Europe et à travers des éditeurs et des auteurs, une sorte de carte blanche à Lucien Valdès, et nous finirons par une troisième partie avec quelques brèves et quelques livres. Alors, une façon à nous de rendre hommage à cette fête du travail, des travailleurs ou au vrai travail, c'est comme ça, il n'y a pas de jaloux, sachant que de notre côté, sur Radio Courtoisie, nous ne sommes pas des travailleurs, mais des bénévoles et des militants, donc nous sommes là ce 1er mai, et nous allons directement aller vers l'actualité avec Philippe Christel, qui alors là va sortir un peu de l'Europe et va se recentrer sur l'actualité d'aujourd'hui, sur cette élection.
Oui, Patrick, pas tant sortir de l'Europe que cela, puisque effectivement,
non, on y reste.
Comme vous le rappeliez, puisque notre émission mensuelle, ou presque, puisque nous sommes sur des cycles de 4 semaines, tombe pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il me paraissait intéressant, peut-être indispensable, que l'on fît quelques rapprochements ou quelques analyses en utilisant la lunette qui est la nôtre. Après tout, nous consacrons une bonne partie de notre temps de parole et de notre salive et de nos analyses sur la question de la grande ou vieille Europe, celle qui se construit autour de Paris, Berlin, Moscou. Nous aimons étudier tout ce qui se rapporte aux différentes technologies de souveraineté, aux politiques et aux stratégies de défense. Et donc, à l'aune de ces éléments-là, et exclusivement à l'aune de ces éléments-là dans un premier temps, est-ce que on peut imaginer faire une comparaison entre les différents candidats ? En tout cas, quel est le bilan qu'on pourrait faire, puisque l'avantage d'un sortant ou son inconvénient, selon ce que dira chacun, c'est qu'il a un bilan, le nouveau, le challenger, comme on ne doit pas dire sur Radio Courtoisie, donc le compétiteur, lui, n'a pas de bilan, pas encore. Et donc, j'ai retenu 4 éléments, me semble-t-il, pour caractériser le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, retenir 4 points, c'est forcément subjectif, c'est probablement des choses qui ont été oubliées, mais il y a 4 éléments qui me paraissaient devoir être notés. Le premier élément, pour moi, c'était de dire que globalement, Nicolas Sarkozy a relativement sanctuariser la défense. Alors tout de suite, on peut imaginer entendre des hurlements parce que nous avons nous-mêmes été les premiers à dire à ce micro que la défense avait été longuement et souvent sacrifiée. On a dit que au titre de la fameuse RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, il était beaucoup plus facile de faire disparaître telle ou telle caserne, telle ou telle base de la carte militaire plutôt que de réduire les agents de catégorie A et B dans l'éducation nationale. Il est un fait néanmoins que sur un certain nombre de choix, y compris sur un certain nombre de choix symboliques, et plutôt en deuxième partie de quinquennat, nous en discussions tout à l'heure hors antenne, effectivement si on compare les ministres Hervé Morin d'une part et Alain Juppé et Gérard Longuet d'autre part, c'est pas exactement le même calibre.
Mais donc comme Kouchner
aussi. Non, mais il n'a pas été à la défense.
Non, Kouchner. C'est vrai. Ah bon ? Il était à quoi ?
Affaires étrangères.
Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié.
Non, mais là, je suis sur le point sans que
non, je plaisantais, défense. Allez-y, Philippe.
Donc, premier sujet, c'est effectivement cette sanctuarisation de la défense. On peut imaginer que que d'autres décisions budgétaires auraient pu être prises, il n'en a rien été à ce jour. Le deuxième élément qui me paraît encore plus marquant, c'est pour la première fois sur la scène publique, un gouvernement, et ça c'est clairement issu de la volonté de Nicolas Sarkozy, a essayé de mettre en œuvre une vision sur une politique industrielle sur les technologies stratégiques. L'élément majeur, ça a été la création du fameux FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui a été doté de 20 milliards d'euros, qui a pris un certain nombre de participations, qui aujourd'hui, grosso modo, intervient sur un périmètre qui couvre 150 000 emplois sur des technologies, des actifs importants ou des technologies particulièrement devant être protégées. Et derrière cette politique industrielle sur les acteurs stratégiques, il y a eu une volonté, là encore, d'être assez pugnace sur un certain nombre de politiques, notamment d'exportation. Je pense à la coopération très forte qui a été nouée avec le Brésil. Je pense à ce qui se passe en Inde avec, alors on suivra bien évidemment les développements de l'appel d'offres à finaliser sur le Rafale, y compris avec nos clients plus habituels dans le Golfe. Et donc, je pense à ce qui a été fait pour certaines entreprises, je pense notamment à DCNS, je pense notamment à ce qui a été fait pas si mal que ça pour EADS. Donc il y a derrière une vision industrielle. Alors, comme d'habitude, hein, on peut en faire des reproches, c'est-à-dire que quand le FSI s'est posé la question d'intervenir en cas d'une éventuelle OPA de Pepsi sur Danone, on s'est demandé ce que ça venait faire ici dans le patriotisme économique sur le yaourt. On peut regretter que cette politique industrielle ne soit pas plus offensive sur d'autres secteurs de la vie économique du pays, encore que sur l'automobile, et on l'a d'ailleurs beaucoup reproché, les ultralibéraux le reprochent, hein, mais sur l'automobile, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'à l'évidence, il y a une vision industrielle. Je suis pas sûr, d'ailleurs, j'ai lu dans les programmes de François Hollande ce qu'il voulait faire du FSI, je ne suis pas totalement rassuré sur le fait qu'on n'irait pas fossoyer cette belle idée. Troisième élément que je voulais aborder, c'est celui de la politique extérieure. La politique extérieure, disons-le tout net, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire dans un papier pour le site www.polemia.com, la politique extérieure de Nicolas Sarkozy a été relativement haïssable sur un certain nombre de points, et c'est-à-dire que il s'est permis de faire des choses qu'il n'était pas forcément obligé de faire dans l'intérêt de la nation, notamment les dernières interventions sur le pourtour méditerranéen, l'union de la Méditerranée, etc., etc. Il y a un sujet sur lequel, et puisque nous devons regarder les choses avec notre loupe ou notre lunette Paris-Berlin-Moscou, il y a un sujet sur lequel Nicolas Sarkozy a fait ou il a tenu. C'était d'ailleurs un de nos sujets d'inquiétude majeure à sa prise de fonction en 2007. C'était sa position vis-à-vis de la Russie. Et force est de constater que Nicolas Sarkozy et son gouvernement, à notre grande surprise dans les premiers moments, a toujours tenu bon. Alors avec des moyens divers. Le premier grand événement, ça a été l'intervention de Nicolas Sarkozy au moment où la France présidait l'Union européenne, au moment du conflit en Géorgie. On en a beaucoup glosé, moi le premier, sur le thème Sarkozy pense avoir obtenu une victoire. Il a surtout laissé faire les Russes et in fine, la fin des opérations n'a pas été si mauvaise que ça pour la Russie et a quand même coïncidé, de concert avec les Allemands, et j'y reviendrai, avec plutôt un moment où l'Union européenne a un peu arrêté d'agresser sur tous les sujets la Russie. Et ça, dans les dynamiques qui sont celles du moyen-long terme, je pense que ça, c'est une inversion, c'est un coup d'arrêt qu'on doit à la diplomatie de Nicolas Sarkozy. Le deuxième sujet qui est loin d'être neutre et qui est cohérent avec le point précédent, c'est la fameuse affaire du Mistral, qui nous a bien pris facilement 3 ans avant d'être négocié. Vous le savez, c'est le Mistral, c'est un navire français particulièrement astucieux, une technologie moderne qui fonctionne en compatibilité OTAN et que Nicolas Sarkozy a accepté de vendre à 2, peut-être 4 exemplaires aux forces russes. On avait droit à toutes les gorges chaudes sur le sujet puisque certains traditionnels alliés des Américains en Europe centrale disaient que trahison, blablabla. Et en fait, la France a tenu bon, à la fois servant à la fois une vision de ses industries de défense et servant à la fois une vision stratégique et diplomatique qui va dans le sens que nous appelons de nos voeux. Le dernier élément qui est un peu lié à cela, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas tombé dans le piège, et si j'enlève peut-être les deux trois et encore les deux trois anicroches de campagne électorale sur la notion de pacte de croissance après pacte de stabilité, n'est pas tombé dans la caricature anti-allemande, anti-Allemagne au cœur de l'Europe qui impose ses vues à tous et à toutes, et n'a pas imposé ses vues, notamment dans un climat de germanophobie latente qu'on a vu se développer très largement à gauche et un tout petit peu, même si ça a été corrigé depuis, au Front National. Donc voilà les éléments pour être synthétique désormais. Dans les temps agités qui sont les nôtres et ceux que nous allons vivre, quel que soit le vainqueur dimanche prochain sur la scène politique, nous allons vivre des moments particulièrement agités sur nos capacités budgétaires, sur nos engagements, sur notre capacité à faire face. Et je retiens donc effectivement comme point positif du bilan Sarkozy cette relative sanctuarisation de la défense, je m'en suis expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir une réelle vision de politique industrielle, stratégique, de patriotisme économique telle qu'elle n'avait jamais existé auparavant, le fait d'avoir préservé et fortifié la relation avec la Russie qui est le seul élément qui sauve une politique étrangère détestable, et le fait d'avoir, je pense, malgré toutes les avanies, gardé une idée un sentiment d'Europe qui se construit autour du condominium franco-allemand. Nous savons très bien ce que nous reprochons à l'Europe de Bruxelles. Nous savons très bien qu'il est difficile de faire la différence entre l'Europe franco-allemande et l'Europe de Bruxelles parfois. Mais j'ai trouvé que la politique suivie avait été plutôt vertueuse sur ce sujet-là. Voilà sur les lunettes qui sont les nôtres. Alors sur à moins que vous vouliez préciser ou commenter Philippe Camarade sur ce sujet-là.
Lisa Valdez, vous avez non sur ce
c'est peut-être des choses que j'ai dit qui vous ont choqué ou qui manquent à l'appel.
Juste sur le fait qu'on a bien vu et on était très inquiet, c'est vrai, et même vous, Philippe, au départ de son mandat, parce qu'on ne savait pas trop exactement les positions qu'il allait prendre. On avait bien vu au départ et on a vu cet échec de ce rapprochement avec l'Angleterre qui n'a en fait strictement quasiment rien donné. On a pu et on l'a dit souvent à ce micro trouver que au moins Nicolas Sarkozy avait ce côté pragmatique de prendre les situations telles qu'elles étaient.
Ou à son corps défendant. Pense que notamment l'influence de François Fillon sur les affaires russes et de son entourage a beaucoup compté. On se souvient en tout cas des termes employés par Nicolas Sarkozy pour décrire la Russie, pour décrire Vladimir Poutine, qui n'était pas toujours aimable. Je pense que cette relation-là s'est faite aussi en prenant en compte les hommes de Matignon.
Mais en gros, ma question, c'est on a quand même eu 5 ans un peu d'incohérence. Est-ce que on risque pas d'avoir encore 5 ans d'incohérence en se disant mais il va être capable de quoi la prochaine fois?
Écoutez, d'abord, je sais que vous êtes un voyant, mais c'est intéressant parce que du coup, ce que vous dites est presque, on peut y répondre de deux manières. Soit on répond, y compris en s'appuyant sur ce que vient de dire Lucien Valdès, en disant, il y a un certain continuum dans les administrations et force est de constater que la diplomatie française, comme, on va dire, les états-majors français, iront toujours dans tel sens. Moi, je voudrais être très prudent là-dessus. D'abord, je pense qu'il faut être pragmatique et qu'il y a un patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui arbitre. Et les mauvais coups, comme les bons coups, ils sont à prendre chez lui. Donc, on va pas faire l'exégèse de la relation Sarkozy-Fillon, mais si on aurait enfin trouvé un sujet sur lequel Fillon aurait servi à quelque chose, pas de bol, c'est pile poil sur quelque chose sur lequel on avait envie d'être sympathique avec Sarkozy. Bon, donc, deuxièmement, c'est que si on suit votre raisonnement, il est évident que la diplomatie française a toujours eu, dans sa filiation, bien évidemment, de monde multipolaire, hérité du gaullisme, une volonté à aller chercher plutôt la continuité chiracienne, ou védridienne dans cet axe Paris-Berlin-Moscou, je remarque à mon grand désarroi que le seul qui se soit élevé fortement et de manière pas très diplomate pour le coup contre la Russie et au moment de l'élection présidentielle russe et Monsieur au Juppé. Moment des manœuvres autour de la Syrie, c'est Alain Juppé qui est à la tête du Quai d'Orsay. Donc c'est pas si évident que ça. Deuxième contre-exemple, il est évident que l'état-major ou les états-majors ont plutôt envie de promouvoir une indépendance stratégique et tactique de la France. Pour autant, l'intérêt du militaire de carrière, c'est pas l'alliance avec la Russie ou l'Europe de la défense où il y a 3 francs 6 sous à se partager en 15 qui parlons pas la même langue, c'est d'envoyer des gars dans les QG de l'OTAN, rejoindre le général Abrial dans un des commandants clés intégrés de l'OTAN. Et donc on sait très bien aujourd'hui que pour des raisons de moyens, de compatibilité, l'armée française ou l'intelligentsia de l'armée française, elle plaide pourtant, elle plaide majoritairement quand même pour un adossement sur la stratégie américaine. Donc ça, c'était plutôt pour répondre à la... Donc c'est pour ça que je pense que les influences sont très nombreuses, et c'est pour ça que l'avantage d'avoir un patron, c'est que comme c'est lui le patron, je pense qu'il faut mettre les choses à son crédit, d'autant plus qu'on a eu plutôt un patron hyperactif, se mêlant de tout, donc pas quelqu'un qui laissait faire les autres. Maintenant, pour répondre à votre question, Patrick, bien évidemment... pas plus qu'aucun autre commentateur, je ne saurais dire ce qui va se passer. Ce que j'observe quand même, c'est que je ne vois pas dans la gauche au sens large, dans la gauche mitterrandienne, des années mitterrandiennes, il y avait un type qui avait tout compris, qui s'appelait Hubert Védrine. Moi, si on me dit que François Hollande va nommer Hubert Védrine au Quai d'Orsay en lui donnant les clés de la boutique, ça mérite réflexion. En revanche, je n'en crois pas un instant parce que d'abord les hommes ont l'âge de leurs artères, et puis quand on a joué une fois, deux fois, eh bien, il faut laisser la place aux autres. La carrière d'Hubert Védrine a été très longue, à l'Élysée d'abord sous Mitterrand, ensuite effectivement comme garde des Sceaux. Aujourd'hui on nous promet Laurent Fabius, on nous promet Pierre Moscovici, on nous promet Fabius, Delanoë, Moscovici. J'ai du mal à être spontanément emballé. À la défense, alors soit on a une solution interne au Parti Socialiste avec un garçon comme Jean-Yves Le Drian, qui aura probablement plus des intérêts marins et maritimes et industriels que peut-être militaires, mais en tout cas ce sera toujours mieux que Jean-Vincent Placé. Il faut quand même savoir que dans les spéculations sur un accord gouvernemental PS vert, celui qu'on nous annonce comme le potentiel ministre de la Défense, parce qu'il faut bien donner un ministère régalien au vert, et que tant qu'à leur donner un régalien, autant leur donner la Défense, parce que ça n'enthousiasme personne à gauche, et on le donnerait à Jean-Vincent Placé, là forcément...
Je sais qu'il y a une rumeur, mais j'ai du mal à y croire.
Mais on sait très bien que, d'ailleurs, il suffit d'écouter le discours du candidat Hollande. Ça, il a été. Enfin, trouvez-moi un élément de thèse, de vision, et pour des raisons assez simples. Moi, je veux pas lui faire le procès en inexpérience, parce qu'il faut bien commencer un jour, et on a tous commencé quelque chose un jour. Mais enfin, force est de constater que la capacité d'être en direction, d'être en impulsion, et tout simplement en réseau, que ce soit avec les Russes, les Chinois ou autres, enfin, rien ne me fascine là-dessus. Or, il me semble, moi, que nous avons, sur ces thèmes-là, et pour les 4 points que j'ai évoqués, j'ai plutôt confiance dans le fait que un gouvernement Sarkozy 2 sera meilleur qu'un gouvernement Hollande 1 sur les sujets que j'ai évoqués. Qu'on se trompe pas. Voilà, donc ça c'était sur les sujets globaux et de manière plus générale, puisque aujourd'hui donc j'ai écouté avec attention le discours notamment de Marine Le Pen du 1er mai, puisque chacun attendait sans grande surprise attendait ce discours. Je dois dire que j'ai été assez déçu. Bon, je m'attendais bien évidemment à ce qu'elle ne prenne pas position ni pour elle et qu'elle laisse libre ses électeurs. Là, il n'y a pas de grande surprise à attendre. J'ai été très déçu qu'elle fasse 80% de son argumentation pour démolir le candidat du camp des droites, qui reste aujourd'hui le camp des droites. J'ai été assez déçu qu'elle se place encore dans une perspective qui est nous avons 20% aujourd'hui, nous aurons 30% demain et nous serons au pouvoir. Je crains franchement qu'on ne mesure pas, emporté dans le succès, et puis on verra ce qui reste de ce succès aux élections législatives, où, en ce qui me concerne, je prends le pari que le FN n'aura malheureusement pas plus de 0 à 2 députés. Je crains qu'on ne voit pas que, ne serait-ce que par rapport au score de Le Pen plus Maigret en 2002, on a gagné en 10 ans 800 000 voix, alors que la situation du pays s'est quand même sévèrement dégradée. Donc on est quand même à un étiage, on arrive à un sommet de vote Front National ou assimilé, et je suis très surpris, très déçu qu'on ne soit pas dans l'invention d'une stratégie du faible au fort. Et pour aller plus loin, moi je n'ai pas fait partie des électeurs de Nicolas Sarkozy du premier tour, et je n'en dirai pas plus, mais je vais faire partie de ces électeurs du second tour. Pour une raison simple, qui est que je crois que quand on est attaché à la nation, à l'indépendance et à la souveraineté de la France, à une France forte dans une Europe puissance, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et c'est pour moi le seul élément important de l'élection. Quand je dis l'élection, c'est la campagne, premier tour, deuxième tour inclus. Hein. C'est que je pense que sur les sujets économiques, on sera mangé à la même sauce avec à peu près zéro marge de manœuvre et zéro clé pour piloter quoi que ce soit. Donc pour moi, il n'y a pas de discriminant possible sur ces sujets-là. Le seul élément, c'est que on a enfin les électeurs de droite, et il faut voir l'ardeur qu'ils mettent dans leurs meetings, la participation, l'engagement qu'on n'a jamais vu pour des électeurs de droite. Ces gens-là comprennent enfin, 64% d'entre eux, qui sont prêts à un accord électoral avec le Front National. Zéro au sommet de l'UMP. Sauf peut-être Gérard Longuet ou Thierry Mariani. Mais ils ne l'ont pas exprimé comme ça. Et donc, quand ces gens-là commencent enfin à se rendre compte que il faut aller plus loin, il faut se libérer sur un certain nombre de sujets qui sont les sujets de l'identité, et on va leur faire perdre l'élection. Et on va leur faire perdre l'élection, puisque s'abstenir, c'est faire voter, c'est faire gagner François Hollande. Et là, je trouve qu'on est à rebours de ce que ça doit être la politique. La politique, c'est pas des leçons de morale sur le thème « il y a 5 ans, t'as rien fait, donc tu feras rien dans 5 ans, donc vraiment t'es un salopard, puis t'as essayé de vendanger les voix de papa, donc du coup, t'auras pas les miennes ». Je pense que c'est pas ça, la politique. Je pense que c'est pas les scénarios catastrophes sur le thème « je vote pas pour toi, tu vas perdre, tu vas exploser en vol, donc je vais prendre ta place d'opposition, et c'est moi qui aurai les clés pour le coup d'après, peut-être. Ça, ce sont des situations qu'on a déjà connues en 81, en 88, en 98, quand la gauche passait au pouvoir. Et en revanche, je pense que le seul basculement, mais qui n'est pas politique, qui est psychologique et qui est presque idéologique dans le corps électoral français, c'est que maintenant que l'électeur de droite a compris quels étaient les vrais sujets, qu'ils étaient à sa portée, qu'il devenait insupportable qu'il ne soit plus au cœur de son dispositif, c'est à ce moment-là qu'il faut aider et qu'il faut montrer que c'est la victoire. Si c'est pas la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va avoir une gauche avec des alliés, les sans-culottes de Mélenchon, les fous furieux des Verts. Donc c'est quand même ça risque quand même d'être assez le carnage. Hein, faut quand même se le dire. Ça risque quand même d'être assez le carnage. Deuxièmement, je pense qu'on va rajouter pour 15 ans ou 20 ans de guerre de tranchées inexpugnable entre la droite, on va dire libérale, et la droite nationale, parce que les uns et les autres s'accuseront des échecs des uns et des autres, qui au présidentiel, qui aux législatives. Et tant que le FN de Marine Le Pen ne voudra parler à l'UMP ou ce qui la remplacera demain que lorsqu'elle sera plus forte, Je pense que le pays n'a pas le temps d'attendre ça, parce que nous ne savons pas si ce moment va arriver. Et surtout, tout le monde ira nous expliquer, tous les observateurs iront nous expliquer que, eh ben, vous voyez bien, faire campagne à droite, faire campagne sur les thèmes de l'identité, c'était perdu d'avance, la stratégie Buisson, ça ne marche pas, etc., etc. Et donc, pour finir sur ce point, je ne serai pas électeur de Nicolas Sarkozy dimanche, parce que je pense que, bon, en 2007, il a promis, il n'a pas fait, mais 2012, là, je pense qu'il va le faire. Non, je ne suis pas dans la béatitude. Je ne suis pas dans l'oubli. Je sais très bien ce que la droite a fait depuis Chirac et le regroupement familial. En revanche, je pense qu'il y a un basculement historique à accompagner dans le pays, comme l'était celui des régionales de 98, que Jean-Marie Le Pen a fait capoter, et c'est bien pour ça que Bruno Maigret et ses amis ont voulu quitter le FN. Là, je pense qu'il y a un coup à jouer, qui est un coup politique et idéologique majeur dans le pays, et je suis un petit peu déçu que le Front National n'ait pas voulu saisir cette stratégie du faible au fort qui me paraît être la meilleure pour le pays.
Alors Philippe, je vais avoir une question, mais parce que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, dont certains doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce discours-là, il y en a quand même quelques-uns. Pour faire une alliance, mon cher Philippe, il faut quand même être deux. Est-ce que vous pensez pas que l'UMP n'a pas aussi, quitte à perdre cette élection, à la fin du premier tour, tendre la main, mais clairement, au Front National, qui aurait posé un problème au Front National par lui-même, parce qu'il se retrouvait à être obligé lui-même de répondre.
Patrick, vous avez 100 fois raison. Vous avez 100 fois raison. Et quand on écoute ce que dit Guéant, ce que dit Kosciusko-Morizet, évidemment. Et puis, là, on a tout récemment ce que dit Longuet, qui se fait retirer dessus par une partie de son camp, etc. Mais bien sûr. Mais d'abord, moi, je ne parle même pas d'alliance électorale. Je dis, il faut que cette élection qui se soit faite sur les thèmes de droite soit gagnée par ceux qui ont ouvert ces thèmes. Et il se trouve qu'au deuxième tour, c'est Sarkozy, c'est pas Marine Le Pen. C'est ça que je dis. Donc je suis même pas dans une espèce de construction d'alliance politique. C'est ça que je... Ne nous trompons pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va pas sortir... Enfin, regardez les leaders de l'UMP. Ce sont les bébés Chirac, des gens qui ont tout construit sur la haine du Front National, avec en face un Front National qui a aujourd'hui perdu tous ses cadres intelligents avec la scission du MNR, et qui a aujourd'hui des petits jeunes qui ont envie de grandir autour de Marine et qui ont envie
de reconstruction énorme.
Donc, si vous voulez, vous avez deux groupes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé. Du jour au lendemain, ils vont pas se faire ses poucous l'un pour l'autre. Je n'y crois pas un instant. Et je ne le demande même pas à Marine Le Pen. Enfin, ce serait idiot de ma part. Ce serait irresponsable. Donc, je ne demande pas d'alliance. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris par la consigne en elle-même. En revanche, je pense que très bien pour la consigne, ça préserve le reste. Maintenant, soyons attentifs à cultiver. Vous savez, c'est quand les parents veulent se séparer. Hein, c'est soit on met de l'huile sur le feu dès qu'il y a des entailles dans le pacte, soit on essaye d'arroser les petits bourgeons qui montrent que c'est possible de faire des choses. Donc, choisissons bien notre camp et comprenons que, ça tombe bien, Marine Le Pen nous a rendu libres ses électeurs. Très bien. Qu'ils fassent de la politique et pas de la morale, qu'ils jouent le pays et pas les calculs, et qu'ils fassent gagner le camp qui a découvert l'identité, parce que sinon c'est le déferlement dans l'autre sens.
Merci Philippe, nous allons faire une légère pause musicale et puis nous allons retrouver Lucien Valdès et son invité, toujours sur Radio Courtoisie et toujours dans les chroniques de la vieille Europe. Juste le temps d'écouter ces quelques notes de musique et on vous retrouve d'ici à peine une minute. Retour dans le studio de Radio Courtoisie, deuxième partie de ces chroniques de la vieille Europe. Après cette partie brillante de notre ami Philippe Christel sur les élections, nous retrouvons Lucien Valdès qui a
qui va complètement présenter cette deuxième partie. Vous allez nous présenter vos invités. Lucien, je crois qu'on va partir dans l'édition, dans le littéraire. On change complètement de sujet.
Ah oui, c'est un peu d'air. Je vous propose donc tout d'abord d'aller à la rencontre de deux passionnés de littérature. Le premier s'appelle Arnaud Borde, c'est un jeune éditeur courageux qui anime depuis 5 ans les éditions Alexis Pharmac, à son catalogue des auteurs de qualité aussi différents que Jean-Paul Bourg, Ludovic Maubreuil, Georges Feltin-Tracol, Luc-Olivier Dalganche, David Matin. Bref, toute une horde de penseurs rebelles à la pensée unique qu'il faut lire et encourager. Et puis le second qui est présent dans notre studio et qui s'appelle Olivier Aubertin. Il dirige la collection de récits de voyage Phileas Fogg au sein de la très belle maison d'édition Nicolas Chaudin et qui est plutôt tournée vers l'histoire de l'art, l'architecture et la photographie. Olivier Aubertin, bonjour.
Bonjour.
Alors, cher Olivier Aubertin, vous me pardonnerez, mais nous allons tout d'abord, si vous le voulez bien, présenter les éditions Alexis Pharmac de notre correspondant, car il est au téléphone. Arnaud Borde, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, oui. Donc, vous êtes le créateur de la maison d'édition Alexis Pharmac. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ces éditions et nous dire quelle est votre ligne éditoriale ?
Alors, elles ont été fondées en 2007, hein, parce que nous étions deux à la base, hein, à l'origine, mais je suis seul désormais. Et nous trouvions qu'il y avait des auteurs qui n'étaient pas ou plus édités, et je pense en particulier à David Matta et à Luc-Olivier Dalganche. Et elles ont débuté ainsi, par David Matta et Luc-Olivier Dalganche. Après, la ligne éditoriale, elle est à la fois littéraire et politique. Littéraire, parce que je suis très sensible au style, et au niveau politique, ce seront, pour employer un terme générique, des pensées dissidentes.
Alors, en ces temps d'élection où la gauche et la droite nous ressortent à l'envi le mythe jacobin national, vous publiez une réflexion à contre-courant donc de Luc-Olivier Dalganche intitulée « Lecture pour Frédéric II ».
Oui.
Il s'agit d'un bel hommage à la dimension sacrée et impériale de l'Europe à travers la figure de Frédéric II de Haussthofen.
Oui, alors s'il s'agit d'empire, hein, c'est plutôt un empire spirituel, bien évidemment. Et ça renvoie à une royauté ou au roi du monde, tel que l'imaginait René Guénon. Et c'est essentiellement la figure du pontife pour, on va dire, interroger le passage du sensible à l'intelligible. Et cela en rapport avec la tradition oniromantique, hein, des néoplatoniciens et de Jamblic. Voilà.
D'accord.
Essentiellement, enfin, je pense que telle est l'essence de la pensée de Luc-Olivier Dalganche.
Alors, cher Arnaud Borde,
est-ce que pour nos auditeurs, quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire 2-3 mots sur Luc-Olivier Dalganche, qui c'est, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, je ne sais pas s'il est né, s'il est mort
Alors, Luc-Olivier Dalganche, il est à la fois philosophe, hein, poète. Hein. Il a commencé avec Henri Montaigu. Il a participé également à la revue Contre-Littérature. Hein. Et il écrit essentiellement des essais sur le néoplatonisme, hein, sur la royauté, au sens guénonien du terme, hein, sur l'ésotérisme et aussi sur la langue des oiseaux, qui est la langue, donc, le véhicule de l'ésotérisme.
D'accord,
il est toujours vivant.
Cher Arnaud Borde, il nous faut parler du très beau dernier roman de David Matta, Le Soliste de Dresde, que vous publiez. Je ne résiste pas à la tentation de citer Jacques Aboukaïen, qui dit à son propos, à vrai dire, chacun de ses romans est à la fois une épure, un combat et une oraison. C'est un beau programme.
Oui, alors David Matta, je pense qu'il faut comprendre ces romans comme autant de parcours initiatiques, dont le véhicule est la nostalgie. Et cette nostalgie, c'est le retour vers une espèce de temps sacré, ou la quête d'un temps sacré. Ce temps sacré, chez David Matas, c'est essentiellement l'Antiquité romaine. Et donc c'est à la fois ce temps-là, cette géographie, ce sont souvent des lieux où se trouvent des vestiges romains, mais ça peut être une autre géographie plus locale, hein, j'entends, par rapport aux Pyrénées, c'est-à-dire l'Aragon ou le Gers. Après, au niveau du combat, c'est un combat esthétique, hein, qui est une critique acerbe de l'art contemporain et essentiellement conceptuel. Et c'est effectivement un retour au figuratif. Circule aussi dans ses romans une énergie ou un sacré païen, bien sûr.
Alors, je continue comme ça à feuilleter le catalogue des dernières nouveautés. Et je voudrais qu'on dise un mot de ce livre d'entretien avec Jean-Paul Bourg, qui est un personnage étonnant, écrivain prolifique, animateur de la radio ici maintenant. Il vient de, enfin vous venez de donc de publier Le Temps du Loup, Demain la guerre civile, dont le titre et l'auteur en fait, c'est un programme qui met l'eau à la bouche.
Alors le temps du loup, c'est une exploration de l'âge de fer d'abord, puisque ou du Ragnarok si on reste dans les mythologies nordiques, hein. Et c'est la fin d'un cycle, hein, et la fin de, on va dire, de l'ère civilisationnelle européenne. Et c'est à la fois un combat, donc une façon de s'opposer à cette chute, hein, et par donc un retour aux sources, hein, qu'elles soient chrétiennes ou païennes, hein, et en même temps, en reprenant la figure de la narque, de Junger, hein, c'est un recours aux forêts. Et c'est en même temps aussi un art de la guérilla. C'est essentiellement ces thèmes qui sont explorés dans ces entretiens avec Sébastien d'Altavilla.
Alors, donc il y a encore beaucoup d'autres trésors à découvrir sur le site alexipharmac.net. Oui. Les auditeurs de Chroniques de la Vieille Europe y seront en bonne compagnie. Je pense donc à l'excellent critique de cinéma Ludovic Maubreuil qui vient d'y publier Les Images Secondes, ou à Réflexion à l'Est qui vient juste de sortir de Georges Feltin-Tracol, qui aborde, oui, la question des rapports avec nos voisins orientaux des steppes et de la taïga. Cinéma, littérature, géopolitique. Sont les trois axes de votre maison d'édition.
Oui. Avec donc il y a bien sûr Jean Barvoulesco que l'on retrouve et qui me semble être presque une figure tutélaire finalement des éditions Alexis Pharmac, hein, puisque nous avons publié quatre romans de lui. Et on peut y trouver également Michel Marmin, Alain de Benoît, le livre manifeste de la revue Rébellion, qui a été écrit par Jean Gallier et Louis Alexandre. On y trouve aussi de la littérature pure, hein, comme Jacques Astruc, qui finalement reprend la décadence, j'entends l'esthétique fin de siècle, hein, là où l'avait laissé Jean Lorrain, par exemple. Quoi d'autre encore ?
Eh bien, je vous remercie. Je crois que les auditeurs ont pu découvrir cette maison d'édition qui fait un travail formidable. Je vous remercie.
Je vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée. Alors, Olivier Aubertin, revenons vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, cette collection Phileas Fogg, où vous publiez donc de très beaux petits livres de poche dans une édition qui est toujours soignée, très agréable, peu chère. Donc vous y publiez des textes rares comme Russie Express d'Honoré de Balzac ou encore le dernier, So British de Paul Morand. Qu'est-ce qui guide vos choix ?
Merci. Eh ben écoutez, cette collection, elle a été créée parce qu'on se disait qu'il fallait mettre en rapport la littérature et le voyage, et que on avait suffisamment d'écrivains de par le monde qui avaient été de grands voyageurs et qui avaient l'habitude de voyager et qui faisaient des relations fantastiques. Et donc on nous sommes dit, ben ça fait, cette collection existe depuis 3 ans. Et elle a un maître d'œuvre, si je puis dire, c'est l'éditeur qui nous a accueillis, Nicolas Chaudin. Et Nicolas Chaudin s'est dit, mais après tout, prenons Phileas Fogg, le voyageur de Jules Verne, et trouvons des passe-partout. Et alors, il y a 2 passe-partout. Il y a Laurent Graveline, qui est co-directeur de la collection, et moi-même. Et donc, nous essayons de publier 5 à 7 ouvrages par an. Et c'est une aventure qui dure depuis maintenant 3 ans et qui où nous arrivons à balayer la littérature du 18e au 20e en essayant de prendre des textes soit inédits, soit oubliés, soit introuvables, et parfois faire vraiment faire vraiment une activité de d'éditeur au sens strict, puisque là nous venons de sortir un livre de Michel Déon qui s'appelle Partir, qui a été préfacé par Michel Déon là récemment, et qui est un texte de voyage, de notes de voyage un peu partout, plutôt en Europe. Et ce Michel Déon suit 4 Morand, mais aussi, vous l'avez dit, Balzac, mais aussi des textes du 18e.
Alors, on sent que dans cette collection, une prédilection un peu plus particulière pour Paul Morand. Vous en êtes à 3 titres, entre Rhin et Danube, d'autres 4 titres, excusez-moi, entre Rhin et Danube, d'autres Venise, So British, j'en oublie un. Pourquoi Paul Morand ?
Bain de soleil. Pourquoi Paul Morand ? Vous parliez tout à l'heure du jacobinisme. Et en fait, Paul Morand n'est pas un auteur nationaliste ou jacobin. C'est un cosmopolite. Mm-hmm. Mais un cosmopolite, non pas au sens du mondialisme, mais un cosmopolite au sens de la tradition européenne des écrivains cosmopolites, c'est-à-dire Gobineau, Larbeau, Morand. C'est un homme qui aime découvrir la diversité des pays, qui ne s'arroge pas une suprématie particulière, une arrogance jacobine, mais qui aime retrouver dans les spécificités des peuples, parfois des nations, la couleur et le chatoyance du monde, en fait.
D'accord. Vous rappelez dans une des préfaces que vous consacrez à Paul Morand, une de ces phrases que je trouve très belle pour ma part. Morand dit « Je voudrais finir mes jours sur les bancs d'une classe d'histoire et de géographie ». C'est une phrase qui, soit dit en passant, pourrait nous servir d'indicatif ici aux Chroniques de la Vieille Europe, tant elle illustre ce que nous y faisons mois après mois. Qu'est-ce que Morand peut nous apprendre finalement de la géographie aujourd'hui ?
Justement, parce que c'était un auteur un peu cosmopolite, il nous parle de sa géographie, des pays qu'il aime. Et en fait, il voulait écrire un livre qui devait s'appeler « Mon plaisir en géographie ». Et il est mort avant de pouvoir le faire. Et nous nous sommes dit, mais il y a des textes inédits, introuvables, de Paul Morand, qui nous parlent aussi bien de Venise, de la vieille Europe centrale, que ce soit l'Autriche-Hongrie, que ce soit le Danube, que ce soit l'Allemagne du Sud ou Bayreuth. Et en fait, essayons de constituer ce Mon plaisir en géographie qui n'a pas eu le temps de terminer. Donc on a essayé de regrouper, par exemple, sur ces 4 volumes, les textes sur Venise, les textes sur l'Europe centrale, les textes sur l'Europe du Sud, qu'elles soient sur l'Atlantique, du côté de Madère, ou qu'elles soient en Méditerranée, avec la Crète, l'Andalousie, les Baléares, et puis terminons avec les Anglais, parce qu'ils ont toujours un pied en Europe.
Il faut dire, mon cher Lucien, que ces livres, c'est pas simplement des livres, c'est des vrais petits objets d'art, parce que ce sont des vrais livres, c'est pas un petit poche de coller. Et justement, en fait, on attache presque, quand on en a un dans la main, on a envie d'avoir toute la collection dans sa bibliothèque.
Vous savez, je peux vous encourager.
Ça, j'en doute pas, on peut pas le montrer aux auditeurs de Radio Courtoisie. Le format est petit, il y a une mise en page bien précise. Est-ce que vous êtes obligé de faire un choix aussi par rapport à la longueur du texte ?
Alors, on essaie de pas dépasser. C'est une collection de livres à 7 ou 8 euros, donc ils coûtent pas trop cher. Et on essaie de pas dépasser 120, 130 pages. Le but, c'est qu'on offre à des lecteurs des textes littéraires de qualité, un appareil critique qui accompagne et des textes rares ou introuvables. Par exemple, et faire de vrais livres de poche. Et ça fait penser à un mot de Cocteau. Cocteau disait, Paul Morand, le seul prosateur qu'on emporte dans la poche des poètes.
Ouais, voilà. C'est un livre de poche, c'est presque un livre de voyage. On a envie de le mettre dans sa malle.
Et de voyage et de poche.
Moi, j'aimerais revenir sur le texte, sur Paul Morand d'ailleurs, à la lecture de Retour à Richard Wagner, qui date du début des années 30. On reste frappé par sa sécheresse du trait, par une certaine vision goguenarde, typiquement française, presque Troisième République, si j'osais. Rien à voir avec ces pages si pleines de passion sur Vienne, sur la maison Autriche, sur la Mitteleuropa. Pour reprendre votre titre, entre le Rhin et le Danube, est-ce que finalement Morand n'a pas choisi le Danube ?
Vous avez raison. Je pense que Morand a eu du mal à comprendre les Allemands et à comprendre l'Allemagne. Et ce texte-là est un texte très daté, puisque c'est un texte des années 23 ou 24, donc où le jeune Morand essayait de comprendre les Allemands et il avait du mal à comprendre l'Allemagne au moment où elle était complètement tourneboulée. Donc il parle d'une Allemagne un peu perdue, de gens qui se retrouvent à Bayreuth pour célébrer Wagner et célébrer une sorte de germanité. Mais toutes les fois où il va écrire sur l'Allemagne, il parlera plutôt de l'Allemagne malade des années 20 à 25, alors que sur l'Europe centrale, il parlera de l'Europe centrale tout au long de sa vie. Donc il a une vraie prédilection naturelle pour l'Europe centrale. Vous savez qu'il a été ambassadeur à Bucarest, et en même temps, sa femme était roumaine. Donc il avait une sorte d'attirance naturelle pour l'Europe centrale. Et puis il a été en mission beaucoup à Moscou, et il a été aussi le directeur de la commission du Danube, hein, qui s'occupait, à la suite du démantèlement de l'Autriche-Hongrie, de réguler les litiges et aussi de régler la navigation sur le Danube entre les États. Donc il avait une vraie connaissance du Danube. Il quittera cette commission que pour être envoyé à Londres juste avant la guerre.
D'accord. On le sait, il y a chez Morand un bonheur évident d'écriture, mais aussi un solide optimisme. Je l'ai découvert à cette occasion sur ce que la vie. Là, je reprends d'autres Venise. C'est un autre petit livre. Un solide optimisme sur ce que la vieillesse des siècles vénitiens apprend à la jeunesse d'à présent. Je ne résiste pas à la tentation de citer un petit passage tiré d'autres Venise, un petit passage au début du chapitre, Le réveil de la belle aux eaux dormantes. Je trouve le titre assez drôle. Donc c'est page 64. Dans la cour du palais ducal, près du célèbre puits, se dressent en ce moment de noires sculptures totémiques, 20 pieds de haut, qui font penser aux poteaux de couleur du bateau ivre. Elles font partie d'une exposition de sculptures contemporaines. Devant ces œuvres barbares, sauvages, le visiteur se sent agressé, pris pour cible. Ces artistes veulent-ils brûler Venise ? Hâtons-nous de sourire. Nous avons passé par là dès 1920. Pour les futuristes, les gondoliers étaient déjà des balançoires à crétins. Que la jeunesse prenne Venise pour un podium est encourageant. Alors, l'optimisme chez Morand, est-ce que je fais fausse route ?
Non, surtout sur Venise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intéressant sur Venise et Morand, c'est que la littérature européenne début de siècle parlait de Venise comme un mouroir, comme un tombeau flottant. Et Morand est un homme qui, sur Venise, sera toujours gai. Ne verra jamais Venise comme un mouroir ou comme le symptôme de la décadence de l'Europe, mais restera toujours confiant et positif. Et on peut très bien comparer Thomas Mann avec la mort à Venise ou Barrès avec la mort de Venise, qui ont une vision un peu glauque ou décadente, alors que jamais Morand ne sera touché par la morbidité, en fait. Il n'y a aucune morbidesse dans sa vision de Venise. C'est peut-être un message d'espoir.
Alors, vous savez que vous ne pouvez pas quitter ce studio sans évoquer l'amitié entre Paul Morand et Ernst Jünger, puisque Olivier Aubertin, vous avez personnellement connu l'écrivain allemand. Vous avez édité en France Le Lieutenant Sturm aux éditions Viviane Ami. Il me semble qu'elle ne paraît pas, cette amitié, elle n'apparaît pas dans Rhin et Danube. Qu'en est-il ?
Pas mal de textes de Rhin et Danube.
Jünger est allemand.
Jünger est allemand. L'amitié de Morand et Jünger était aussi l'amitié de Madame Morand et de Ernst Unger. Mais c'est assez rigolo. Morand a donné tous ses livres dédicacés à l'Académie française et dedans, il y a plusieurs textes de Unger avec envoi à Paul Morand. Et ils sont restés proches, en fait, après-guerre. Mais il faut dire que la vie de Morand était un peu chahutée. Il était lui-même un peu en exil. Merci. Donc, ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de renouer le contact.
D'accord. Alors, je voulais parler aussi de vos projets sur les prochains titres, notamment. Quels sont-ils? Qu'est-ce que vous comptez publier dans cette petite collection?
Alors, je suis très gêné parce que il y a ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, mais je peux vous annoncer qu'il y aura un très beau texte de Barrès avec un très illustre préfacier. Il y aura un inédit de Malaparte. Ah. Et il y aura un autre texte, mais là j'ai juré de ne rien dire, mais je peux vous garantir qu'il devrait avoir du succès.
D'accord.
Vous avez, depuis que vous faites cette collection, vous avez quand même une expérience des textes de voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore? C'est un style qu'on retrouve chez les contemporains. Alors je parle pas des livres d'aventure, hein, mais du livre de voyage, c'est-à-dire cette impression, l'impression qu'un auteur donne sur un voyage bien précis.
Alors c'est surtout une tradition anglo-saxonne, en fait, la littérature de voyage maintenant. On la retrouve chez Eric Newby, bon, Chatwin qui est mort maintenant, mais il y a toujours des écrivains fameux. Moi, je pense surtout en France à Sylvain Tesson, qui est vraiment dans la lignée des écrivains traditionnels voyageurs français et qui fait un très très beau travail.
Ouais, mais alors que je dirais plus dans cette tradition d'écrivains presque qui d'explorateurs presque, alors que chez des gens comme Morand ou chez Michel Léon, etc., on est vraiment dans le voyage. Je dirais,
malheureusement, Patrick,
bourgeois et impertinent.
Mais je crains que aujourd'hui, soit vous faites un voyage à la Tesson, soit vous faites un voyage avec Nouvelle Frontière. C'est-à-dire qu'il y a plus
beaucoup de difficile.
Non, mais c'est vrai. Et que le voyage s'est tellement mondialisé en lui-même, c'est que on ne peut plus voyager comme voyageaient Morand et Déon. Ou alors c'est Tesson, c'est en mode totalement roots, comme on ne dit pas sur Radio Courtoisie.
Mais c'est pas faux ce que vous dites, parce que à la fin, Morand devait voyager et faire des articles pour une revue qui s'appelait La Revue des Voyages, et l'éditeur l'envoyait dans des palaces climatisés et il disait mais tous les palaces se ressemblent, ça sert à rien de m'envoyer dans des palaces climatisés, ça ne sert à rien, le monde moderne croît tellement rapidement que je vais vous rapporter que des textes insignifiants.
Oui, c'est intéressant de voir le décalage de Morand. Enfin, et, à la fin de sa vie, finalement, il est plus de ce monde.
Oui, oui, ou alors il voyage à travers des mémoires ou avec des souvenirs, mm-hmm, ou avec de la fiction, mais moins avec des textes. Alors il y a aussi la fatigue de l'âge, mais je pense que c'est pas ça. À plusieurs reprises, il écrit qu'il est, je le cite un peu dans Bain de soleil, il écrit que il a du mal à trouver des endroits d'étonnement, en fait, parce que l'air conditionné gagne. C'est un peu ce qu'écrit Henry Miller lorsqu'il écrit dans Le Colosse de Maroussi des textes où il dit mais l'américanisation ou le mode de vie américain gagne trop et je risque de retrouver partout le même jus d'orange, le même air conditionné, etc.
Oui, alors ça c'est le problème du voyage de tout le monde. J'avoue que j'ai souvenir, je l'avais lu il y a longtemps, mais entre Rhin et Danube, même si Paul Morand a d'une mauvaise foi totalement sur l'Allemagne, c'est un texte quand même brillant et drôle, avec beaucoup. Et je crois que c'est ça l'intérêt de ces textes-là, c'est que on découvre un pays, mais à travers une écriture, à travers un côté très subjectif du pays. C'est ce que vous cherchez dans les auteurs.
Oui, ce qu'on veut, c'est de la couleur, en fait. On veut du style. Évidemment, sinon, on ruinerait la collection avec des textes anodins et banals. On veut du style et de la couleur.
Alors, je rappelle cette collection. C'est la collection Phileas Fogg.
Éditeur Nicolas Chaudin.
Exactement. Et donc, dont vous êtes le directeur de collection, Olivier Aubertin.
Donc, on mettra de toute façon sur le site toutes les références sur la vieille Europe.
Exactement.
Autre chose, mon cher Lucien ?
Eh bien, oui, autre chose. Je voulais vous parler, je ne sais plus où je l'ai mis, si, voilà. je voulais vous parler d'un livre absolument passionnant que j'ai pour ma part dévoré. Il s'agit du dernier livre de Bruno de Cessol, Ben Laden, le bouc émissaire idéal.
Ah oui, là on change de voyage.
Oui. Carrément. C'est aux éditions de La Différence. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, je pense, Bruno de Cessol, qui est sans doute l'un de nos plus grands critiques littéraires aujourd'hui, à valeur actuelle, après l'avoir été à Magazine Hebdo, au Figaro, au Point, entre autres. Alors, j'avertis d'emblée les amateurs de théorie du complot. Vous pouvez passer votre chemin. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'essai n'a rien d'une énième ressucée complotiste. Il est, au contraire, une réflexion qui m'a semblé prodigieuse sur le couple infernal formé par Ben Laden et l'Amérique depuis 30 ans. De l'invention du champion du fondamentalisme islamiste par les services américains contre l'ennemi soviétique à son assassinat le 2 mai 2011 à Abbottabad au Pakistan. Alors que nous dit Bruno de Cessol ? Il nous dit « Nous étions orphelins de l'anticommunisme ». Depuis 89. Et cette absence de cause, Ben Laden l'a comblée avec la chute des Twin Towers le 11 septembre 2001. Finalement, le meilleur ennemi de l'Occident était un leurre qui a masqué pour un temps l'avènement d'un nouveau rapport de force mondial largement défavorable à l'Occident. Et ce qui fait la grande originalité de ce livre, c'est que l'auteur invite des écrivains comme Tite-Live, Plutarque, Dostoïevski. Il invite l'histoire. Et c'est ce qui rend le livre absolument passionnant, tout simplement parce que on n'est plus dans le traité de géopolitique, on est dans la littérature, dans l'explication littérale. Et donc il en ressort donc de ce livre, Ben Laden, le bouc émissaire idéal, une hauteur de vue sur le rôle durable du ressentiment dans le phénomène du terrorisme islamiste et dans le comportement occidental envers le monde musulman qui n'avait, à mon sens, jamais été pris en compte par les géopoliticiens et autres experts de tout poil. Finalement, ce que la littérature a à nous dire de Ben Laden nous en dit plus que tous ces livres de géopolitique réunis. Et alors, Cessol finit d'ailleurs par un remerciement à Ben Laden, qui me semble assez incisif. Merci donc, Oussama Ben Laden, d'avoir offert à ce vieil Occident en voie de décomposition spirituelle l'ultime chance de salut qu'il ne méritait peut-être même pas.
Ben merci, Lucien Valdès, pour une chose qu'on remercie en fin de partie.
Je ferai remarquer que Christelle. Bruno Cessol manie toujours, semble-t-il, le concept d'Occident, ce qui me paraît être une erreur. Mais c'est un autre sujet.
Ah là, sur Ben Laden.
Qu'on ne pourrait instruire en l'absence de l'intéressé.
Oui.
Je ne parle pas de Ben Laden, vous avez compris. Mais Bruno Cessol, qui me semble-t-il, est plus facilement joignable.
Alors, rappelez juste le titre et puis l'éditeur avant qu'on fasse notre petite pause.
Alors, Ben Laden, le bouc émissaire idéal, c'est un livre de Bruno de Cessol aux éditions de La Différence.
Merci Lucien, merci à vos invités. On va juste refaire une petite pause et puis on va retrouver Philippe Christel pour cette fois-ci l'actualité européenne et puis pour d'autres peut-être coups de cœur d'ici une petite minute. Toujours sur Radio Courtoisie, bien sûr.
De retour dans le studio de Radio Courtoisie, toujours dans les chroniques de la vieille Europe, et cette fois-ci, on va vraiment voir l'actualité européenne chaude, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ce mois-ci. Faut que je dise ça à chaque fois, mais en fait,
oui.
C'est strictement rien.
Non, mais il s'est passé d'autres trucs.
Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses.
On est à la veille d'une semaine électorale, figurez-vous. Il n'y a pas que chez nous, et je ferai quelques.
Ah oui, il y a eu les Pays-Bas où ça a un peu bougé.
Alors, il y a eu les Pays-Bas, voilà. Entre autres. J'ai pas forcément prévu d'en parler, mais la Roumanie et notre... Non, mais comme on était sur les bouquins et que généralement vous me piquez toujours mes 5 dernières minutes, je peux jamais parler des bouquins.
Ouais, c'est pour ça que là, je commence. Cette fois-ci, allez-y.
Non, très rapidement, je voulais signaler que quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on admire beaucoup, qui est Pascal Gauchon. Donc Pascal Gauchon, on le connaît, il est normalien, il est agrégé d'histoire, c'est lui qui dirige au PUF la fameuse collection Major. On l'avait invité plusieurs fois, on avait invité Philippe Conrad aussi qui avait publié dans cette collection. Gauchon, depuis 2-3 ans maintenant, il est co-organisateur du Festival de géopolitique de Grenoble. Et là, il vient de sortir son dernier ouvrage, c'est intéressant, c'est la géopolitique de la France. Donc c'est sorti au PUF en février 2012. Et donc c'est assez intéressant puisque effectivement ça nous ramène à ces thèmes qu'on connaît bien, mais on les applique à notre propre pays. Et c'est vrai que ça permet de dépouiller, puisqu'on est en pleine campagne électorale, ça permet de dépouiller beaucoup de choses pour revenir sur les fameuses tendances lourdes, les fameuses pesanteurs, les fameuses réalités de la géopolitique. Donc je reviens pas sur cet ouvrage, mais je le recommande.
Alors, On va faire le tour. Alors, et je vous signale, mon cher Philippe, que si vous écoutiez un peu plus ces chroniques quand vous n'étiez pas, c'est Grégoire Gambier nous en a parlé de ce livre, je crois, il y a 2 mois quand vous n'étiez pas là. Mais je vois que vous n'écoutez pas nos émissions à ce moment-là. Mais on va redonner la parole une minute à Lucien Valdez.
Exactement.
Une fois un livre de géopolitique dans les mains.
Voilà, hein, exactement. Et en plus, un livre dont on n'a pas parlé.
Rapidement.
Il s'appelle Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Iran. Ce sont des auteurs, c'est Tancrède Josserand, Florent Louis et Frédéric Pichon qui l'ont écrit. De toute façon, on va en parler plus longuement et notamment dans la prochaine émission,
oui, je suppose, quand vous l'aurez lu.
Exactement.
Voilà.
Et surtout quand on aura invité les 3 auteurs qui seront là donc le mois prochain.
Voilà. Okay.
Et c'est aux éditions PUF. Dans la fameuse collection dirigée par Pascal Gauchon.
Vous voyez, ça se fait toujours en 2 fois. Quand il sort, il y en a un qui en parle, et puis après, quand on l'a lu, le deuxième en parle.
Voilà, ça marche un peu comme ça.
On est totalement coordonné avec Grégoire.
Oui. Vous étiez en train de dire que Grégoire Gambier, en fait, ne l'avait pas lu quand
il en a parlé, non.
Voilà, d'accord. Je vous laisse, allez-y.
Le deuxième sujet, alors là, je vais parler d'un livre que je n'ai pas lu.
Ouais.
Donc non, parce qu'il est intéressant de sur le bon, je vais pas parler de prise de conscience, ce serait peut-être excessif, et puis c'est toujours pareil, c'est au moment où les gens commencent à sortir de la carrière qu'ils écrivent un certain nombre de choses. Donc c'est le bouquin d'Augustin Romanet qui s'intitule Non aux 30 douloureuses. L'État n'a pas de temps à perdre. Donc Augustin de Romanet, donc c'est un vieux routard ou un vieux routier des cabinets ministériels. Il a été dans les équipes de Matignon de Jean-Pierre Raffarin, et puis depuis il a été directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Son mandat vient de s'achever, et à ce titre il a été président donc du fameux fonds stratégique d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure, donc président de 2007 à 2012, donc sur puisque ce fonds recouvre le quinquennat Sarkozy jusqu'à maintenant. Et en gros, son bouquin est un plaidoyer effectivement sur le moyen, si ce n'est le long terme. Hein, donc le nom aux 30 douloureuses, vous l'avez compris, c'est bien évidemment, on a eu les 30 glorieuses, on s'achemine sur les 30 piteuses, il faut absolument éviter à tout prix les 30 douloureuses. Et donc Romanet a toute une première partie de son bouquin qui consiste à essayer de décrire, c'est toujours plus facile, de décrire à quel point... Les dirigeants politiques animés par une vision à long terme ont été ceux qui ont surmonté les crises, premièrement. Deuxièmement, il explique à quel point, il enfonce les portes ouvertes, mais c'est toujours bien à ce niveau-là d'interlocuteur et avec la manière dont il l'écrit, de le décrire ainsi, dans quelle mesure la financiarisation a généré cette ultra-frénésie du court terme, le court terme générant là aussi un aveuglement absolu. Et ce qui est intéressant, c'est que il incrimine deux choses. La deuxième est assez nouvelle. La première, c'est que donc il incrimine en gros l'absence de vision politique des leaders politiques d'aujourd'hui. Alors, il n'en cite aucun, hein, mais le deuxième, c'est que il cible cette fameuse tarte à la crème de l'État stratège. Il rappelle que l'État, c'est bien évidemment le premier employeur de France, 5,3 millions de collaborateurs. Et je ne compte pas les collectivités territoriales. Hein. Donc en cette journée où on parle du travail, du faux travail, du vrai travail, bref, je ferme la parenthèse avec un demi-sourire. Mais il explique que cet État est un très mauvais employeur, parce qu'en fait, il n'a aucune stratégie d'allocation de ressources globalement sur sa population travailleuse, si j'ose dire, et individuellement, c'est ce qui explique ce qui est aujourd'hui le pantouflage, ces cohortes d'énarques qui sortent pour aller faire leur classe et leurs preuves, et parfois des choses pas totalement stupides dans le privé, avec donc cette... Il montre à quel point l'absence de vision long terme, elle se fait aussi sur le pilotage des ressources et quelque part sur le bateau ivre qu'est l'administration publique. Donc derrière, bien évidemment, il plaide, lui, pour que la France retrouve enfin une ambition qui la dépasse, hein, mais combien ont caressé ce rêve. Il propose trois clés. Alors c'est là où il est moins évident sur les trois clés. La première, c'est convaincre les Français que la mondialisation est une chance. Alors le problème, c'est que cette phrase a été tellement galvaudée qu'on a quand même du mal à se convaincre que la mondialisation est une chance, parce qu'en fait, le facteur qui distribue votre courrier maintenant vient de Haute-Volta, alors qu'avant, il venait du Tarn-et-Garonne. Bon. D'un autre côté, quand on écoute les palinodies d'un Mélenchon aujourd'hui, on a quand même envie de se dire qu'il y a quand même une chance dans la mondialisation et qu'il ne faut pas se laisser subjuguer par un discours sans culotte, ultra-protecteur, qu'on a retrouvé beaucoup chez Mélenchon et parfois un peu chez Marine Le Pen, mais je pense qu'elle va arrêter ça, parce que c'est pas bon. Le deuxième sujet, bien évidemment, c'est relancer le projet européen. Et là, on est au cœur des discussions qu'on a eues tout à l'heure. Donc il faut qu'on arrive à relancer un projet européen qui, à la fois, continue à faire exister la belle idée d'Europe, qu'elle ne soit pas exclusivement économique, qu'elle ne soit pas exclusivement bruxelloise. Est-ce que le couple franco-allemand peut le faire? C'est une autre question. Et le troisièmement, bien évidemment, c'est la tarte à la crème de repenser les politiques publiques en réduisant la dépense publique. Tout ça pour dire que, sans faire l'exégèse, en parler trop, ce serait fastidieux, mais on a là un bouquin qui est un véritable plaidoyer pour le long terme et qui me paraît bienvenu en ces périodes de électorales, et qui souligne en creux d'ailleurs le fait que à peu près aucun candidat, et là je dis bien aucun, mis à part peut-être, alors que les auditeurs ne s'évanouissent pas tout de suite, mis à part peut-être Eva Joly, personne ne propose un projet de société qui soit en continuité ou alternatif. Hein, là, au moins,
on vous suit là-dessus, hein. On sait très bien le projet de société d'Eva Joly, ça c'est clair.
Ce n'est pas le nôtre.
Mais il y en a un.
On verra bien. Hein, s'il se retrouve au gouvernement avec François Hollande, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est difficile. Donc, autres éléments que je voulais aborder avec vous, donc c'est effectivement un calendrier particulièrement chargé pour cette semaine. Jeudi 3 mai, nous avons l'élection du maire de Londres. Bon, ça, je l'ai noté quand même parce que c'est important que vous le sachiez, vous qui êtes des anglophiles convaincus. Donc, on ne sait pas ce qu'on aurait pensé, feu Paul Morand, mais bon.
Il n'y a pas l'ancien maire qui se représente
si. Ken Le Rouge.
Voilà, Ken Le Rouge. Alors, il est,
cette élection est absolument fascinante parce que il y a un mandat, donc je peux pas vous donner la date parce que je connais pas le nombre de, je sais pas cette date-là. Donc les conservateurs ont considéré que l'élection était perdue parce que de toute façon Londres était, c'est un peu comme nous, quoi.
C'est un peu comme Paris.
Comme nous, hein. Bon. Donc ils ont envoyé une espèce de type qui s'appelle Boris Johnson et qui est un gars un peu farfelu, qui est intelligent, journaliste. Pas forcément intelligent parce qu'ancien journaliste, hein. Je voudrais pas qu'il y ait des raccourcis comme ça qui soient faits par nos auditeurs. Donc un gars plutôt intelligent, il se trouve qu'il a été journaliste, il en est sorti, ce qui prouve donc qu'il est une certaine... Bref, bon. Et donc ce gars-là, totalement à rebours des codes du parti conservateur, bref, il gagne l'élection. Alors, faut dire que Ken Livingstone, surnommé comme vous disiez Ken le Rouge, était plutôt un travailliste dur. Et donc là, Ken revient pour la revanche, mais Boris tient la corde. Et donc c'est assez intéressant parce que. Enfin non, en fait, ça n'a aucun intérêt. En fait, ça n'a aucun intérêt, mais elle est assez folklorique, cette élection. Et comme derrière, il y a les Jeux Olympiques, les problématiques de sécurité, les problématiques d'endettement de la ville, c'est intéressant, mais pas au-delà de ça. Non, plus intéressant, le lendemain, c'est le second tour des élections législatives en Iran. Alors, je vais pas faire de commentaires très précis, parce que j'en serais totalement incapable. J'aurais juste rappelé que l'Iran n'est donc pas la dictature qu'on dit qu'elle est. Et que pourquoi ce second tour des législatives est important, c'est que tout le monde s'imagine, en ayant une lecture un peu superficielle de la situation, que le bon président, enfin le bon président, histoire de c'est un tic de langage, le président,
oui, on avait bien compris, Jad,
est une espèce de chef tout puissant de son pays, pas du tout, puisqu'en fait. L'Iran étant une théocratie, un certain nombre de figures du clergé chiite sont beaucoup plus puissants que lui. Il doit être en rang protocolaire, si je ne me trompe pas, numéro 4 sur la liste. Et donc ce président-là est issu d'une majorité parlementaire et c'est aujourd'hui, enfin ce second tour risquera de lui être fatal. Je profite du sujet de l'Iran pour aborder avec vous un sujet que j'ai trouvé totalement passionnant, qui est, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer en Israël aujourd'hui, et concernant justement la politique iranienne. On vient d'avoir, depuis un certain temps, on a eu donc Shimon Peres, qui est le chef de l'État, de même manière que le général Benny Gantz, qui est le chef d'état-major des armées, l'un comme l'autre, on dit quand même le Premier ministre Netanyahou et son allié Ehud Barak, ministre de la Défense, ex-dirigeant du Parti travailliste. Ces gens-là nous font croire que l'Iran est au bord d'avoir la bombe atomique et veut absolument éradiquer l'État d'Israël. Nous, on pense que la menace n'est pas aussi forte que ça et qu'il faut quand même être prudent sur ce dossier. Et puis, ne voilà-t-il pas que c'est le patron du Mossad qui en remet une couche ? Puis le patron du renseignement militaire, puis le patron du Shin Bet. Le Shin Bet, c'est le renseignement intérieur. Donc voilà, le chef de l'État, le chef d'état-major des armées et les trois patrons des agences de renseignement qui disent attendez, on est en train de nous faire pomme. Qui disent ça gentiment, ils sont en activité, ces gens-là. Donc ils sont polis.
Et puis, c'est quand même une première en Israël.
Qu'en Israël, effectivement, la première des premières, c'est une liberté de ton disant ce que dit l'exécutif, nous, quand même, nous qui sommes des fonctionnaires, hein, on a quand même une liberté de ton qui on s'autorise à faire exister une voie divergente. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il y a un gars qui s'est jeté à l'eau, il s'appelle Yuval Diskin, c'est l'ancien chef du Shin Bet, donc l'ancien patron du renseignement intérieur, qui a expliqué, je le cite, « Je n'ai aucune confiance dans l'actuel leadership », donc là je cite, c'est pour ça qu'il y a leadership, c'est ça, c'est la courtoisie, « qui doit nous conduire pendant des événements comme une guerre contre l'Iran ou une guerre régionale. Je n'ai pas confiance en des hommes comme messieurs Netanyahou et Barak qui prennent des décisions sur la base de sentiments messianiques ». Donc, je referme la parenthèse que c'est pas le débat, mais l'occasion de parler de l'Iran, le fait de parler de l'Iran était l'occasion d'aborder cela. On a quand même, on semble arriver sur une crise politique ou en tout cas une crise de crédibilité parce que paradoxalement, Netanyahou n'a jamais été aussi populaire. Ceci expliquant peut-être cela. On sait malheureusement par expérience des grands carnages que ceux qui prônent les solutions bellicistes sont parfois ceux qui sont plus écoutés que les autres. Mais c'est intéressant de voir que là, nous avons, alors que les États-Unis et Barack Obama, qui abordent une année cruciale pour sa réélection, sont très embêtés avec la manière de s'y prendre avec Netanyahou. Rappelez-vous l'échange Obama-Sarkozy au sujet de Netanyahou, l'un et l'autre disant « ce type-là, je ne lui fais pas confiance, il me ment tout le temps », disait Nicolas Sarkozy sur Netanyahou, et devant un micro indiscret. Bref, il y a là une anecdote à suivre et dont j'espère que les Iraniens ne feront pas les frais. En attendant, ils vont voter vendredi. Et puis dimanche, un certain nombre d'élections, donc élections législatives, municipales et présidentielles, paquet cadeau en Serbie, élections législatives anticipées en Grèce, Alors en Grèce, bien évidemment, donc c'est le premier scrutin après les années de crise. Tout le monde annonce que le Parti socialiste sera balayé. Tout le monde annonce que même le Parti Nouvelle Démocratie, qui est de moins en moins nouvelle, serait balayé. Même les partis historiquement anti-système, comme les partis d'extrême gauche, risqueraient de ne pas faire, de ne pas tirer les marrons du feu. On parle bien entendu d'une percée du Laos, qui est
alors, rappelez aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Voilà, qui est le parti dit d'extrême droite. Mais alors, le Laos serait débordé sur sa droite par un parti qui s'appellerait Aube Dorée.
Ah non, donc c'est pas le parti d'extrême droite, quoi. C'est...
Bah non, c'est bah,
l'extrême de l'extrême.
C'est,
hein.
Alors c'est extrême
de
l'extrême, à tel
faut
point.
Toujours avoir
à
une extrême droite à ses côtés.
Exactement.
C'est un dicton de Philippe Christel.
Exactement. Et donc, les journaux, qui sont quand même des gens intelligents et cultivés, ont trouvé une étiquette pour le parti Aube Dorée. Ce sont des néo-nazis. Ah, néo-nazis, au moins c'est simple. Donc des néo-nazis grecs, hein, c'est faut quand même visualiser quand même. Vous voyez un Hezbollah, ouais. Hein, vous voyez un Hezbollah. Enfin bon, voilà, vous voyez les images. Vous voyez Nuremberg, les drapeaux de ça, puis un Hezbollah avec ses pompons là. Ben c'est ça, ça doit être ça, Aube Dorée. Donc un néo-nazi grec. Bref, et visiblement ils vont faire un carton. Alors un carton, c'est fait un minimum 3% pour être représenté au Parlement. Bon, blague à part. Au-delà de ça, ce qui est important quand même, c'est qu'est-ce qui va sortir de ces élections? Dans quelle mesure les opinions sortent un peu, beaucoup, totalement traumatisées ou pas de ce qu'elles vivent? C'est ça qui sera intéressant, puisque la situation, quoi qu'on en dise, la situation que vit la Grèce n'est pas celle de l'Espagne, qui n'est pas celle de l'Italie, qui n'est pas la nôtre. Mais enfin, quand même, rien ne nous dit que nous ne passerons pas par là à courte ou moyenne ou longue échéance.
Ça va se terminer avec une sorte de coalition et un Papandréou à nouveau, non?
Je ne sais pas, je ne ferai aucune prédiction.
Une des deux familles,
si vous voulez, c'est que c'est le premier scrutin, puisque en Grèce le gouvernement est tombé sans scrutin, hein. C'est pas la même chose qu'en Espagne, c'est pas la même chose que
vous allez rajouter qu'en France.
Ben non, le force est de constater que n'a pas été balayé. Là, il sera peut-être battu dans 3-4 jours, mais l'écart n'aura rien à voir.
À la légale.
Et à la loyale, oui. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, qu'est-ce qui ressort de ces votes et de ces colères des peuples dans un pays comme la Grèce, qui est le plus touché, qui a une classe politique totalement discréditée. Il en sort quoi? Je sais pas qui sont les CSA, Logica, Louis Harris, IFOP locaux, mais je pense qu'ils doivent s'arracher les cheveux.
Sachant qu'en Grèce, aujourd'hui, le trois quarts de l'administration est sous contrôle de l'Europe pour vérifier. Je pense que les pauvres Européens qui essayent d'expliquer aux Grecs ce qu'on peut faire comme État, à mon avis, vont avoir du boulot avec un nouveau gouvernement, parce qu'il va falloir qu'ils se remettent avec d'autres personnes à ce niveau-là.
La seule chose qui serait triste, de notre point de vue, je pense, c'est avoir une colère populaire qui, dans les urnes, désigne des gens qui attaquent l'idée même d'Europe non pas en attaquant l'Europe de Bruxelles, du FMI, des agences de notation, de tout le gymkhana de 1981 et de l'entrée dans l'euro où tout le monde a fraudé sur tout le temps pour que cette espèce d'idéal mercantiliste se répande. Non, qu'elle n'attaque pas cette Europe-là, mais qu'on retrouve les attaques contre l'idée même d'Europe, et y compris en refaisant des Allemands des colonisateurs, voire des nazis, encore plus nazis que les néo-nazis d'Aube Dorée. Enfin bref, bon. Ce serait drôle d'ailleurs, c'est que normalement, ceux qui pourraient tenir se disent... Enfin bon bref, je ne sais pas ce que va faire le monde quand Aube Dorée va dire « C'est horrible, les Allemands sont des nazis ». Oui, mais vous-même, vous êtes néo-nazis. Oui, mais d'accord. Enfin, bref, voilà. Ce sera pour l'émission d'après. En Allemagne, habile transition. En Allemagne, élection régionale en Schleswig-Holstein. Pourquoi elle est importante? Le Schleswig, je dis ça pour nos auditeurs, c'est la petite région frontalière entre l'Allemagne et le Danemark, qui n'a pas grand intérêt, si ce n'est qu'elle est la patrie d'origine de la Holstein, qui est quand même la vache laitière la plus répandue en Europe. Non, mais c'est important de cultiver tout le monde. Et non, c'est intéressant parce que, une fois de plus, les libéraux allemands vont probablement se prendre une déculottée de première. Et c'est intéressant parce que on prête de plus en plus à Angela Merkel la volonté d'avoir recours à des élections anticipées puisque la CDU, mine de rien, le paquet de CDU de CSU est plutôt de bons sondages en ce moment. Angela Merkel, vu du point de vue des Allemands, elle fait quand même ce qu'il faut, faut dire, dans un contexte de santé insolente, mais qui n'a pas été obtenu en vain. Hein. Je ne vais pas vous refaire l'article sur ce que j'ai déjà raconté moult fois sur les sacrifices sur les fourmis allemandes versus les cigales françaises ou sud-européennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la déculottée se confirme, on pourrait avoir des élections législatives anticipées pour l'automne 2012, c'est-à-dire qu'on aurait un an d'avance et qui déboulerait sur une nouvelle grande coalition CDU, CSU, SPD, puisque les Verts sont en perte de vitesse à gauche, partenaire habituel de la gauche, les Verts sont en perte de vitesse, le Centre, partenaire habituel de la droite, en perte de vitesse, et les seuls qui font une percée, c'est le fameux parti des pirates. Et ça, Lucien, vous qui êtes notre grand spécialiste, là je lance un appel en direct aux auditeurs. Lucien, organisez-nous quelque chose avec un représentant francophone, hein, des partis des pirates. Parce que moi je peux faire l'entretien en allemand, mais je ne sais pas si nos auditeurs vont apprécier.
Et je ne suis pas sûr qu'Henri accepte beaucoup une émission entièrement en allemand.
Dernier élément qui me paraissait intéressant, c'est le 6 mai et le 7 mai, parce qu'on vote sur deux jours, c'est plus simple, c'est plus, etc. C'est en Italie. En Italie, on vote sur deux jours. Un jour pour y aller, puis un jour pour revenir. Enfin, je ne sais pas comment ils vont. Bref, ce sont les élections municipales, mais les élections municipales dans les villes de plus de 1000 habitants. Donc c'est sur toute l'Italie. Mais ce qui va être intéressant, c'est à regarder le score de la Lega Nord, de la Ligue du Nord.
Oui, il ne vous a pas échappé. Scandale.
Voilà, il ne vous a pas échappé que ce parti a connu une sorte de méga scandale autour de la personnalité d'Umberto Bossi et au sein de sa famille. Il y a un débat. Est-ce qu'il était au courant, pas au courant? Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas tellement l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux thèses aujourd'hui qui s'affrontent, et pas toujours avec vierge de bonnes intentions. Les premiers qui disent la Ligue, l'arroseur arrosé, aujourd'hui, effectivement, les sondages lui donnent 6 à 7% d'intention de vote, là où elle faisait 10. Je rappelle, je donne ce chiffre-là parce que c'est un chiffre qui est calculé sur la base de l'Italie tout entière, alors que la Ligue ne se présente que sur les régions du Nord, hein, ce qu'ils appellent la Padanie, donc ils regroupent le Piémont, la Vénétie, la Lombardie, etc. Et zones dans lesquelles elle est capable de faire assez régulièrement 25-30%, mais ramenée sur le territoire italien, ça donne 10. Donc là, on la donne à 6-7. Il y a ceux qui disent, attendez, c'est l'occasion pour la Ligue du Nord d'un véritable changement de témoin. Et d'ailleurs, force est de constater que la Ligue a rapidement réagi, non seulement en excluant tous ceux qui étaient fauteurs de troubles, accessoirement, le trésorier indélicat a restitué l'argent, prouve que ce garçon avait de la ressource, parce qu'il n'est pas tout dépensé. Même l'Audi A6 offerte au fils de Bossi a été rendue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais... et donc la Ligue, ce qui est amusant, ça rebondit vite, a même montré à quelle manière, derrière un scandale, a été capable de réagir mieux que tout autre parti en rendant l'argent aux sections, l'argent des militants, comme dirait Roger. Roger, si tu nous écoutes. Bref, donc ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes. Premièrement, c'est globalement, quel va être le score? Est-ce que la Ligue va souffrir de cela alors que les raisons pour lesquelles elle a été conçue, construite et elle s'est développée, elles, n'ont évidemment pas été modifiées? Et deuxièmement, est-ce que ce sera l'occasion d'un véritable passation de pouvoir? Il y a toute une génération qui est la génération historique, qui a fait ses armes dans les premiers temps des mouvements indépendantistes, qui a celle qui a collé les affiches au petit matin, qui a d'ailleurs toujours défendu l'alliance avec Berlusconi, sauf avec la parenthèse de 94. Et puis il y a l'autre équipe qui est plus jeune, qui est venue avec les succès électoraux et qui n'a connu qu'elle. Cette équipe, elle est aujourd'hui emmenée par Roberto Maroni, qui fut le dynamique ministre de l'Intérieur de Berlusconi, et qui regroupe aujourd'hui les jeunes élus, le maire de Vérone, le gouverneur de la Vénétie, etc. Et donc, il y a probablement une passation de témoins. Si la Ligue arrive à montrer que, malgré quelques moutons noirs, le contexte étant ce qu'il est, on arrive à survivre et en plus à faire une transition, elle aura gagné beaucoup parce qu'elle aura trouvé une bonne occasion de se débarrasser d'un vieux leader Et ça, c'est vraiment de la chance d'avoir ce type d'occasion, parce que tout le monde n'a pas ça.
En sachant, Philippe, que Bossi avait déjà été en retrait par rapport au parti.
Oui, parce qu'il était malade.
C'est pour ça qu'on
dit que peut-être il ne s'est pas rendu compte. D'abord, publiquement, il avait déjà dit, grosso modo, à son fils que son fils était un crétin et qu'il misait absolument pas sur lui pour quoi que ce soit.
Ça dépend des familles.
Oui, il y a les fils indignes et puis il y a les filles prodigues. En tout cas, ce qui ne risque pas de changer un certain nombre de préoccupations des lecteurs, c'est que on sait maintenant, l'Italie vient de terminer un recensement. Elle compte désormais 3 fois plus d'immigrés qu'au début du siècle et son immigration est en exponentielle depuis 10 ans. 6,35% d'étrangers dans la population en 2011, 2,34% il y a 10 ans. Et là, je parle d'étrangers, ça veut dire que comme chez nous, ça ne compte pas les régularisations et naturalisations. Alors, ce qu'il faut peut-être pour pondérer, donc, on nous explique que ce sont surtout des Polonais, des Roumains et des Albanais. Il y a aussi beaucoup d'Africains. En revanche, les jeunes Maghrébins qui ne considèrent pas l'Italie comme une terre d'accueil, en majorité, poursuivent leur route vers la France. Hein, donc ça c'est la bonne nouvelle pour les Italiens. On est content pour eux. A priori, aucun des quelques 40 000 Tunisiens débarqués clandestinement l'an dernier à Lampedusa n'a pu être identifié au terme des 6 mois de séjour. A priori, la plupart a franchi une frontière à Vintimille pour retrouver un refuge dans l'Hexagone. Donc les Italiens, vous nous revaudrez ça. En tout cas, voilà. Et puis la dernière échéance, bien évidemment, c'est le second tour de l'élection présidentielle française.
Si vous avez une petite brève de 1 minute ou 2, non, rien. Autrement, moi, je peux vous simplement. Alors, attendez, on a terminé. Je voudrais simplement. Pour une fois, je vais pouvoir parler et présenter des livres. C'est formidable.
Mais oui.
Simplement, les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent bien parce qu'il est passé dans l'émission d'Henri Lesquin. Alain Bournazel qui m'a gentiment envoyé un magnifique petit essai qui s'appelle Le défi finlandais pour un modèle éducatif, économique et culturel et qui nous en apprend beaucoup sur ce petit livre. Alors, il faudra qu'on en reparle. De toute façon, je pense que il y a eu d'autres émissions. Alain de Benoît vient de sortir Mémoire vive, l'entretien avec François Bousquet aux éditions de Fallois. C'est un grand entretien qu'il a fait avec François Bousquet que nous avions reçu et nous avons reçu Alain de Benoît. Je pense qu'il va avoir une émission Lucien Valdez sur Radio Courtoisie. Autrement, si on peut l'avoir, on fera une grande émission avec Alain de Benoît sur ces mémoires qui sont passionnantes. Donc c'est Mémoire vive, édition du Fallois, entretien avec François Bousquet, Alain de Benoît. Vous rappelez juste, Lucien Valdez, on a une petite minute, les éditions de notre invité de tout à l'heure.
Alors, c'est rapide, les éditions Nicolas Chaudin. Donc la collection s'appelle Phileas Fogg et donc elle est dirigée par Olivier Aubertin.
Il y a un site internet, j'imagine, où
on mettra ça de toute façon, les liens sur les vieilles chroniques de la vieille Europe, vieilleeurope.fr. Vous retrouverez notre émission d'ici 2 ou 3 jours si vous avez envie de la réécouter. Voilà, merci à tous, Lucien Valdez, Philippe Christel, fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. Nous nous retrouverons bien sûr dans 4 semaines avec un autre invité et des nouvelles actualité, une autre actualité de l'Europe. Bonne soirée sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.